Joseph Maïla, c'est peu dire aujourd'hui que le Proche-Orient ne se porte pas bien et que la paix est encore lointaine. Reste que l'on continue, et c'est un bien, à l'espérer, cette paix. Cette difficulté à vivre ensemble, à quoi est-elle due?
Il y a tout d'abord ce que j'appellerais un problème de mémoire. C'est vrai que sur cette terre, il y a des peuples qui ont souffert, qui ont connu des périodes extrêmement dures dans leur existence, notamment des génocides, et qui ont du mal effectivement à vivre ensemble, non pas parce qu'il y a de l'hostilité entre les peuples, il y en a, nous sommes en guerre, mais parce que je crois que la mémoire chargée de tout le poids de l'histoire donne quelque chose comme une espèce de coefficient qui multiplie les dangers, les appréhensions, les peurs, et qui ne facilite pas les choses. Et puis deuxièmement, il y a un problème, j'allais dire, banalement politique, qui consiste à ce que, ou en ce que, les États sont des États faibles dans cette région, l'identité citoyenne n'est pas tout à fait apparue, parce que l'État est jeune, mais les populations sont anciennes. Et c'est sans doute le sentiment d'appartenir à une communauté qui l'emporte aujourd'hui dans nombre de cas, bien entendu je pense à l'Irak, mais je peux penser aussi au Liban, qui l'emporte sur l'idée au fond d'une appartenance commune à une seule et même nation.
Alors vous avez parlé d'identité citoyenne, comment résoudre justement ce hiatus qui existe souvent entre appartenance communautariste, entre appartenance religieuse je dirais, et identité citoyenne?
D'abord c'est une longue patience de l'histoire, les États qui ont réussi à imposer une conception unitaire de la nation, de la République, se sont faits dans l'histoire lentement. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est que l'égalité des droits, le fait de vivre sous la même loi, de partager un même destin, devrait pouvoir hâter les choses. Et donc, de ce point de vue, le poids de la société civile devrait pouvoir l'emporter un jour sur celui des disputes proprement politiques, des intérêts proprement politiciens, ceux de l'élite, et devrait pouvoir imposer, au fond, une vision unifiée et pacifiée. Mais je crois que à la fois la perte du sentiment identitaire au profit d'une identité nationale, bien entendu, il ne s'agit pas de renier qui on est, mais en quelque sorte de dépasser, de sublimer cette identité dans une vie en commun où il y ait un idéal commun partagé. Or, cet idéal commun partagé, c'est l'État, c'est la nation, c'est le fait d'appartenir à un même ensemble, d'avoir les mêmes aspirations et de partager le même bien commun. Tout cela se met en place difficilement, mais je crois que c'est inéluctable. Il y a une marche de l'histoire, même si aujourd'hui, effectivement, nous choisissons le mauvais moment pour en parler, vu l'exacerbation des tensions et des rapports de force au Moyen-Orient.
Exacerbation des tensions, on peut difficilement ne pas parler, lorsqu'on en parle justement du Moyen-Orient et de ces tensions exacerbées, des États-Unis. C'est devenu même une banalité aujourd'hui que de critiquer la méthode Bush.
Je crois qu'il faut faire la part des choses. Les États-Unis se sont trompés, manifestement, visiblement, quand ils ont pensé qu'une démocratie était possible, imposée par des transformations violentes et par, en quelque sorte, une politique de la canonnière qui consisterait à se transporter avec armes, bagages et démocratie en Irak, puisqu'on parle de l'Irak. Mais en même temps, je pense que beaucoup de choses sont dues aux structures complexes des réalités moyen-orientales. On peut reprocher aux États-Unis, par leur politique, d'avoir attisé les tensions entre sunnites et chiites, pour être concret, mais on ne peut pas les accuser d'avoir inventé ni le sunnisme, ni le chiisme. Et c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention quand on est dans cette région du monde à ne pas, en quelque sorte, alimenter, justifier, légitimer des sentiments d'enfermement identitaire qui ne poussent véritablement qu'à faire de l'identité une forteresse, alors qu'elle devrait être quelque part une passerelle.
Est-ce qu'au Proche-Orient, il est plus difficile qu'ailleurs de faire la part des choses entre religieux et politique, justement?
Oui, absolument, je crois. Mais en le disant, je voudrais aussi ne pas confondre le Moyen-Orient uniquement avec ce sentiment communautaire. Si nous envisageons la situation en Europe, dans l'ex-Yougoslavie, on a une situation un peu identique à celle qui prévaut aujourd'hui au Moyen-Orient. Si on va un peu plus loin, un peu plus au nord, en Europe, le cas irlandais entre protestants et catholiques, et heureusement pour l'Europe et pour les Irlandais, ce conflit est en voie de résorption. Donc nul n'est exempt de cette prégnance, en quelque sorte, d'une identité religieuse qui en vient à être une identité politique. Et c'est là où la confusion devient non seulement dangereuse, mais qu'elle devient véritablement nuisible et nocive à l'existence d'une nation pacifiée et en quelque sorte qu'elle contribue à dévoyer l'idée même de religion, puisque c'est au fond au nom du religieux que tout cela est commis, alors que nous le savons, la religion ne se situe pas à ce niveau-là.
Comment placer l'exemple du Liban ou le pays qu'est le Liban dans ce contexte-là? Et est-ce que l'exemple libanais que l'on a souvent mis en avant a ses limites lui aussi?
Il a ses limites, ne serait-ce que parce que la guerre que le Liban a donné à voir a montré que le modèle de la coexistence, de la convivialité entre les communautés peut véritablement s'inverser en son contraire. Et donc là, la critique est non seulement facile, mais elle est justifiée et le modèle ne paraît pas probant, en tout cas pas définitif, dans son côté pacificateur. Et en même temps, au fond, on est pris dans un sentiment d'inéluctabilité, parce que pour le moment, aucun autre modèle ne s'impose. Et qu'on se dit qu'il y a une belle idée, surtout dans cette région du monde, que celle de la coexistence des musulmans et des chrétiens, la coexistence islamo-chrétienne, qui permet en quelque sorte de donner à voir une symbiose des communautés dans un monde où l'opposition islam-christianisme, notamment dans cette région du monde, mais il ne faut pas oublier non plus le judaïsme, présente un autre aspect des choses. Donc le Liban est un modèle qu'il faut préserver, mais tout en sachant que la chute de ce modèle ouvre la voie à l'antimodèle absolu. Alors on peut bien entendu se dire qu'une fois pour toutes, la coupure entre le religieux et le politique devrait être avérée et qu'il faudrait véritablement bâtir cette société politique sur une distinction avec les communautés religieuses. C'est vrai, je crois que nul ne peut y échapper. Et si on veut qu'il y ait un début de stabilisation, on ne peut pas tout communautariser. Et en même temps, de se dire que ce qui existe dans d'autres régions dans le monde, en Europe notamment, n'a pas forcément ni le même impact et que les réalités sont différentes en Europe et au Proche-Orient. Donc on est dans un modèle transitionnel peut-être, dans un cas de figure où en attendant une intégration plus grande, les individus sont obligés de passer par leur communauté, mais il ne faut pas faire de la communauté l'horizon de la vie commune.
Quel pays au Proche-Orient se révèle, selon vous, de véritables médiateurs pour la paix?
Au fond, les hommes du Proche-Orient, et permettez-moi peut-être de spécifier plus particulièrement les chrétiens du Moyen-Orient, sont des véritables passeurs d'humanité. Parce qu'ils sont à la croisée des chemins, ils appartiennent fondamentalement à plusieurs cultures. S'ils sont orientaux de par leur culture, le fait qu'ils appartiennent au christianisme les met avec le christianisme universel, et notamment le christianisme européen, et en fait véritablement des personnes médianes, en quelque sorte. Donc je peux dire que peu ou prou, les gens ont plutôt au Proche-Orient ce profil, cette attitude de médiateur. Néanmoins, quand on voit que, et c'est là le piège du communautarisme, que quand une communauté a peur, quand une communauté se sent menacée, il est extrêmement difficile de prendre ses distances par rapport à l'ensemble communautaire. Il est très difficile de passer de cette mentalité naturelle de médiateur à une posture réelle de médiateur. Parce que le sentiment de la solidarité compacte, c'est-à-dire la plus dure, n'est-ce pas, l'emporte sur la nécessité de la médiation, de l'ouverture, de la tolérance et de cette perspective ouverte sur l'altérité.
Joseph Maïla, merci.